Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que signifie être métisse? Bonjour Maïka Sondargi.
Bonjour.
Merci de passer dans le studio des 8 milliards de voisins parce que vous êtes à la fois canadienne, malgache, indienne et vous publiez Tu viens d'où? Réflexion sur le métissage et les frontières aux éditions Luxe. Et vous êtes aussi professeur en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa au Canada. Dans nos sociétés de plus en plus cosmopolites, c'est vrai que les histoires de métissage peuvent sembler très répandues. Au Brésil, par exemple, la population métisse est devenue majoritaire selon les chiffres du dernier recensement publié en 2022. Mais chez vous, au Québec, 12% des nouveau-nés avaient un parent natif du Canada et l'autre de l'étranger en 2023, selon le bilan démographique de la belle province. Avoir des origines multiples n'a donc plus rien d'exceptionnel, mais les questions d'identité, d'appartenance demeurent, à la fois pour ceux qui demandent justement tu viens d'où et pour ceux à qui s'adresse la question, dont vous faites partie, Maïka. Alors comment se vivent ces identités multiples quand on est métisse? Les voisins, les voisines, évidemment, on attend vos histoires familiales au 33-7, 64, 45... 51-41. Et puis en fin d'émission, un nouvel épisode de notre série Le succès des repas, réalisé par Charlie Dupio. Aujourd'hui, vous découvrirez le portrait de l'entrepreneuse Ticia Mukuna et le café, surtout à la mode quinoise. Et enfin, un reportage de Tom Malky qui s'est rendu à l'exposition Game Story à Versailles. C'est une exposition qui retrace 70 ans d'histoire du jeu vidéo. Et oui, déjà 70 ans. Et c'est un incroyable moment transgénérationnel.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Et tout de suite, Maïka Sondargi, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on accueille un auditeur, Abdel, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Abdel.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux 8 milliards de voisins, en particulier aux 18,5 millions de Sénégalais et aux quelques 37 millions de Marocains aussi.
Et ben voilà, je crois que vous êtes déjà bien défini, Abdel, parce que vous êtes métisse, vous-même.
C'est cela, donc voilà, mon papa est marocain, originaire de Fès, issu d'une famille de commerçants qui ont immigré au Sénégal dans les années 50. Et ma mère est sénégalaise, donc voilà, je suis moitié marocain, moitié sénégalais.
Et donc, quand vous étiez enfant, vous avez grandi au Sénégal?
C'est cela.
Oui. Et comment vous vous sentiez perçu?
Difficile, parce que entre ma famille, la famille de mon papa, donc qui était marocain, donc forcément, en fait, il y avait ce regard, il voyait bien qu'en fait, je n'étais pas à 100% marocain de par ma couleur de peau. Et forcément aussi, la famille, en fait, de ma maman, qui sont des Sénégalais, qui voyaient bien qu'en fait, j'étais un peu trop clair pour être 100% Sénégalais. Donc, du coup, voilà, j'ai vécu, on va dire, quelque part entre deux chaises et, oui. Et il a fallu, en fait, essayer de contenter, en fait, voilà, ces deux familles avec des regards différents.
Mais alors, à 14 ans, vous avez finalement décidé de votre couleur de peau, d'une certaine manière.
C'est ce que j'aime bien dire et je suis un peu plus à l'aise là-dessus parce que j'ai aussi des enfants métissés.
Oui.
Donc à 14 ans, en fait, voilà, j'ai compris très vite que je n'allais pas m'en sortir. Donc il a fallu en fait que je définisse en fait et j'ai vu que j'étais beaucoup plus proche en fait, contrairement à mon grand frère de ma mère. Donc je me suis autodéfini comme étant 100% Sénégalais,
oui.
Sans métissage et ça m'a valu en fait... voilà, de surperformer en fait, surtout par rapport à la culture sénégalaise, voilà, d'aimer les plats les plus reculés du Sénégal, de connaître les derniers détails de l'histoire du Sénégal. Voilà, je me suis forgé en fait une identité où je me suis défini en fait à 100% Sénégalais.
Plus Sénégalais qu'un Sénégalais, vous aimez dire, non, je crois,
plus
Abdel.
Plus Sénégalais qu'un Sénégalais. Aujourd'hui, ben, pour vous donner une ordre d'idée, il y a quelques jours, vendredi dernier, par exemple, c'est la fête de l'indépendance au Sénégal. Donc voilà, toute la famille réveille à 6h du matin. À 8h, on était à Dakar pour assister au défilé.
Mais, voilà, donc... Bon, alors, plus Sénégalais qu'un Sénégalais, mais vous avez dit, j'ai des enfants métis. Alors, vous avez épousé qui, en fait, Abdel?
Eh ben, c'est un peu en fait là où l'histoire m'a joué des tours parce que vraiment sans le vouloir et sans le rechercher, quand je suis parti faire mes études supérieures en fait en France durant mon parcours professionnel et quand l'âge du mariage est arrivé, ben, le destin a voulu que je rencontre une Marocaine qui aujourd'hui partage ma vie et qui est aussi mon épouse. Donc voilà, ce qui est rigolo, c'est que j'ai des enfants en fait qui aujourd'hui sont métis aussi maroco-sénégalais, à part qu'ils portent un nom de famille marocain. Mais voilà, donc bonne chance à eux.
Formidable.
Et je sais qu'aussi, voilà, il va falloir qu'ils se battent, qu'ils essaient aussi ben, au regard des autres, de se dire que, OK, ben, je suis peut-être, oui, à moitié marocain, avec un nom marocain, mais je suis aussi sénégalais. Et pour la petite histoire, un clin d'œil, en fait, voilà, par rapport à ce métissage, professionnellement, voilà, j'ai créé une société que je ne vais pas citer à l'antenne, mais voilà, qui est une marque, en fait, pour enfants et qui utilise, par exemple, l'huile de date du Maroc et l'huile de pépins de pastèque du Sénégal.
Oh,
Et
formidable.
voilà, c'est un bon clin d'œil, voilà, pour ce métissage.
Exactement. Et on adore votre joli accent Wolof. Merci à vous.
Merci beaucoup,
Merci à
Emmanuel.
vous, Abdel. Plus
Merci.
sénégalais que sénégalais. On va retenir Maïka Sondargi. Alors, vous êtes canadienne en réalité. Votre passeport est canadien,
Tout
hein?
à fait.
Ouais, un
Mais
seul
est-ce que
passeport.
l'identité, c'est un passeport?
Eh bien, justement. Et alors, il nous parlait de la couleur de peau, Abdel. Est-ce qu'on est métisse par visibilité ou pas, d'une certaine manière? Parce que vous, je veux pas vous décevoir, mais ça se voit pas vraiment que vous êtes métisse.
Mais c'est intéressant que vous dites ça pour pas vous décevoir, parce que pendant longtemps, les gens voulaient être de plus en plus pâles. Mais
Oui.
l'histoire d'Abdel est excellente pour commencer à parler de mon livre, parce qu'effectivement, on peut se définir de différentes manières. Puis la couleur de peau n'a pas toujours à faire dans cette définition. Donc moi, mais d'une personne métisse à l'autre, on se reconnaît. L'histoire d'Abdel, c'est la mienne. Mais même si moi, je suis québécoise, canadienne blanche et indo-malgache par mon père, moi, contrairement à Abdel, je suis, en anglais, on dit white passing, donc je passe pour blanche. Évidemment, ça a teinté, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mon expérience.
Vous pourriez être italienne, on va dire.
Exactement. Moi, je travaillais dans un restaurant italien, on pensait que j'étais du sud de l'Italie. J'ai travaillé dans un restaurant libanais, on pensait que j'étais libanaise. Donc, j'ai plus de facilité à naviguer les différentes identités.
Vous avez un passeport canadien, vous venez d'une famille de commerçants indiens qui eux-mêmes donc avaient émigré vers Madagascar. J'aimerais bien savoir comment vous vivez cette période, cette époque très contrastée, surtout en Amérique du Nord, d'où vous venez.
Écoutez, c'est très complexe parce que, étant issu de l'immigration, déjà, comme vous dites, il y a de plus en plus de métissage, mais ceux qui sont pas des premières générations d'immigrants, mais enfants d'immigrants, et de plus en plus mixtes, donc avec des parents de différentes origines, on en parle de moins en moins, mais les discours sur l'immigration nous affectent quand même. Donc, au Québec, par exemple, au Canada en général et aux États-Unis, il y a un discours anti-immigration très fort, mais en France aussi, j'ai l'impression, un nativisme de plus en plus présent, surtout dans des partis d'extrême droite, dans des groupes qui pensent que dans un pays, il devrait seulement exister des gens qui sont historiquement de ce pays, mais en Amérique, comme vous savez, en Amérique du Nord, très peu de personnes sont natifs de l'Amérique du Nord. Donc, quand on dit les immigrants sont un poids sur la société, effectivement, ça nous affecte le moral.
Et au-delà des débats sur l'immigration, on parle aujourd'hui d'une parenthèse enchantée sur la mondialisation qui se referme, hein, du point de vue du commerce mondial. Hein, et vos parents sont bienvenus, vos grands-parents sont bienvenus aussi à Madagascar pour entreprendre du commerce à l'international. Vous avez une mère québécoise que vous qualifiez, alors je ne sais pas si c'est l'expression québécoise, pure laine.
Oui, pure
ça
laine,
veut dire quoi,
c'est...
être pure laine?
C'est vrai que j'avais jamais pensé que c'était plutôt québécois. C'est
ah oui, chez nous, ça n'existe pas, pure laine.
Une laine pure, donc une laine d'une seule couleur.
C'est ça.
Donc, ça veut dire quelqu'un qui vient, qui est...
comme on dirait, nous, français,
de
souche,
souche,
hein,
exactement.
C'est ça?
D'une seule souche,
c'est un peu péjoratif, non, quand même?
Non, pas du
non,
tout.
Pas
non,
du
au contraire,
tout.
Au Québec, j'ai l'impression que c'est seulement de dire qu'on a nos racines depuis longtemps. On est une laine pure, alors qu'aujourd'hui, même au Canada surtout, je pense, les gens sont de moins en moins... pure laine.
Oui,
donc, il y a de
les...
plus en plus de mélange dans notre histoire. Donc oui, mon grand-père était un bûcheron, donc très canadien, et ma grand-mère l'avait déplanché. Donc, une demeure, c'est une roi.
Ouais. Alors, vous n'utilisez pas tellement le mot métisse que nous, on utilise, parce qu'il y a un risque de confusion avec la nation métisse, hein, au Canada.
Je l'ai dit longtemps, métisse, mais effectivement, ça réfère davantage dans la littérature à des personnes blanches et noires africaines. Donc, moi, j'ai aucune personne qui est noire dans ma famille. Ma famille est indienne, mais de Madagascar, donc oui, africaine, mais en même temps, donc, et au Canada, effectivement, avec la nation métisse et mon teint de peau.
Oui, parce qu'il faut rappeler, les métisses, c'est l'un des trois peuples autochtones reconnus au Canada.
Qui sont un mélange entre différentes nations autochtones, mais qui est reconnu comme une nation, et donc ça porte à confusion. Donc, j'utilise le mot mixte parce que c'est aussi pour référer à des personnes qui habitent un pays depuis longtemps ou depuis plusieurs générations, mais qui ne sont pas, par exemple, de l'origine blanche française, par exemple, et qui se sentent quand même entre plusieurs mondes. On peut être mixte dans ce sens-là. On a plusieurs identités, on habite entre plusieurs mondes.
Eh bien, justement, dans votre pays, le Canada, vous devez répondre à un questionnaire tous les 5 ans pour les services statistiques. Donc, c'est du déclaratif, mais vous devez indiquer à quelle communauté vous appartenez. Ça n'existe pas hein, chez nous, ça.
Ah non, d'accord.
Non, il n'y a pas de statistiques ethniques.
Hein. Ah oui, OK. Non, c'est vrai, c'est plus, il y a plus de, par rapport aux classes sociales ici, je pense, ou d'identification dans le statut économique. Mais au Canada, c'est pour avoir des statistiques, bon, faire un recensement. Mais moi, encore aujourd'hui, quand on me demande de cocher cette case, j'ai aucune idée ce que je dois cocher. Est-ce que je coche Afrique alors qu'on n'a pas de sang africain? Est-ce que je coche Asie du Sud? Est-ce que je coche seulement blanc? Parce que, comme vous dites, bon, je peux passer pour blanche, mais mon nom de famille me trahit.
Ça veut dire qu'au fil des recensements, vous changez de case.
Oui. Hein, j'aimerais bien voir, je ne peux pas savoir, mais j'aimerais bien voir l'évolution depuis que je suis enfant. Je pense que, comme le disait Abdoul, il s'est senti de plus en plus sénégalais. Moi, je me sens de plus en plus indienne aussi.
Maïka Sondarji, vous restez avec nous en tout cas. On se retrouve juste après ce duo sénégalais, Amadeus et Wally Bissek.
Gagne la ta roulga ba Togne la ta roulga ma ire tchoy Salao yen sa nga mer Saman jambar ki yo mi lo ekko Do tu ma wiri wiri jarin dari li mo mom la yele Do tu ma yon mi ken ti sama waji man mi ma koi yele Do tu ma wiri wiri jarin dari li mo mom la yele sama waji man ni ma koy jeng ngi tan sama way bana ma jo fa jël fek nga den jaayoy
dunda mata ñaanoy ndate gende dafa koy ju ndax finaloma xewoli malay jox lepp lo ma ñaan dina la may
dootu ma def len luy metti sama ndaw si Na sama naw le nga don lere sama yone Dotu ma nangu mi neb di dox sama di gak yaw Ndax yalla mo def ci ñun lol wi na
Gañ la taxul nga ba
Ton la taxul nga may rekoy
Salaw yeen say nga mer
Sama ñambar ki mu la wekoy
Dotu ma wiri wiri jarin dari li mo mom lay yele Kenti sama waji man mi ma koy jeli
Dotu ma wiri wiri jarin dari li ma mom lay jeli
Tati sama waji
Dotu ma yoni kenti sama waji man mi ma koy jeli
Tati sama waji
Gany la taku nga ba Ton la taku nga mi rechoy Salaw yin say nga me Sama nyambar ti yo mi la wekoy
Amadeus et Wally Balango sec chez 8 milliards de voisins pour Jelly. D'ailleurs, c'est une chanson qu'on dédie à Abdel qui vient nous appeler tout à l'heure pour nous raconter sa jolie histoire de métissage. Lui qui se sent, qui est moitié marocain, moitié sénégalais, qui se sent plus sénégalais que sénégalais. Vous nous appelez puisqu'on discute du métissage. Qu'est-ce qu'être métisse aujourd'hui? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Maïka Sondarji, vous êtes notre invitée. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes québécois. Vous avez bien un passeport canadien, mais des origines paternelles malgaches, indiennes, une maman québécoise, un grand-père bûcheron au Canada, vous nous le disiez. Votre identité multiple, elle prend racine dans l'histoire familiale, les récits ou plutôt dans le regard de l'autre au Québec, ceux qui vous demandent justement « Tu viens d'où ?» Je précise que c'est une phrase pour nous en France qui est un peu cash, un peu abrupte. Je ne sais pas si on le dirait comme ça, mais là, c'est vraiment à la canadienne. « Mais tu viens d'où ?»
Oui, exact, exact. On dirait, est-ce que vous croisez, quand vous croisez des gens à l'épicerie, est-ce que les
mais
gens
alors,
se font demander
d'où tu as des origines. Oui, voilà, okay. Nous, c'est, on plus tourne subtil. Plus autour du pot. Vous voyez.
Non, au Canada,
et ça peut vexer beaucoup, d'ailleurs.
Mais moi, personnellement, j'ai toujours adoré me faire demander mes origines parce que je n'ai pas l'air indienne, malgache. Donc, si on me demande, je vais
physiquement.
Je vais exactement. Donc, je vais vous raconter l'histoire de mes grands-parents qui sont partis de mes arrière-grands-parents qui sont partis de l'Inde et qui sont allés à Madagascar.
En voilier.
En voilier, exactement. Mon arrière-grand-père est arrivé. Il était retourné chercher sa femme. Il a bâti sa vie. Puis plus tard, mon père, mon oncle sont arrivés ici. Donc, ça me fait plaisir. Mais pour des gens qui, par exemple, sont au Canada depuis plusieurs générations, mais qui sont, par exemple, noirs, se font demander très souvent d'où ils viennent. Et avec le contexte actuel, ça peut donner l'impression qu'on pense qu'on est que les autres pensent qu'on est étrangers. Ils nous qualifient comme étrangers. Donc, c'est vrai que ça peut heurter. Donc, moi, ce que je dis aux gens, n'hésitez pas à la poser, mais si vous avez un peu une relation avec la personne. J'ai une amie qui se le fait souvent poser à l'épicerie en allant acheter ses fruits et légumes. Donc, ça, c'est peut-être un peu abrupt pour tous les pays. Mais sinon, si on a une relation, ça peut faire plaisir d'en parler.
On vous a déjà demandé si vous vous considérez comme racisé. C'est un mot assez récent.
Exact, exact. Et d'ailleurs, par rapport à mes origines, je me pose de plus en plus de questions, plus récemment, à cause des débats, à cause de tout ce qu'on raconte. Et parfois, on me demande de venir parler de racisme systémique à la radio ou à la télévision. Mais être racisé, j'ai encore
de la difficulté. Vous avez des grands-parents indiens.
Ben exactement. Moi, mon père est indien. Vous le voyez, il est tout à fait... il a vraiment l'air d'un indien. Là. Il n'est pas blanc. Mais pour moi, être racisé, c'est vivre du racisme. Donc, moi, je ne vis pas de racisme à tous les jours. Mais j'ai quand même une expérience du monde qui est similaire à Abdoul, qui est similaire à la plupart des personnes mixtes, c'est-à-dire qu'on vient avec un bagage qui vient de plusieurs endroits et donc ça nous donne un certain regard sur le monde. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis dans le livre, j'amène des histoires de ma famille, mais qui parlent à des gens qui ont différentes origines métissées. On est comme une communauté ensemble, même si on a des origines différentes.
Et ce qui est intéressant, c'est que votre histoire familiale, en fait, elle balaye aussi des idées reçues sur les alliances entre immigrés et natifs du Canada, parce que votre famille paternelle à Madagascar était issue de la bourgeoisie commerçante indienne, partie du Gujarat avant la partition entre l'Inde et le Sindh au Pakistan. Hein. D'ailleurs, vous expliquez qu'une partie de votre famille, on ne sait pas très bien,
on a pensé
c'était
qu'on
côté
était
pakistanais ou indien. Mais en tout cas, une famille qui, à Madagascar, était diplômée, très aisée financièrement. Hein. Donc, ce sont une famille chiite ismaélienne sur le plan religieux. Et votre famille maternelle, québécoise, d'origine française, pauvre, peu diplômé, qui galère financièrement.
Ben, tout à fait. C'est étrange parce que quand on rencontre des gens, les gens ont des a priori, ont des préjugés sur « Ah, donc, ta famille vient d'un pays du sud global. » Et là, je vois dans leurs yeux qu'ils veulent que je leur parle de la pauvreté puis du fait que ma famille marchait pieds nus dans les villages. Alors que ma mère habitait avec sa mère qui avait son père était parti, donc elle vivait avec ses frères et sœurs, avec sa mère, dans une maison sans plancher, directement sur le sol et avec une toilette à l'extérieur de la maison.
Ça, c'était au Québec.
Exactement,
sans
avant que l'aide sociale arrive, exactement. Donc, pendant quelques années au début de sa vie. Et après ça, bon, ils ont galéré. Ma grand-mère a dû laver des planchers, s'occuper de trois enfants toute seule. Donc, c'était assez pauvre. Ma mère, aujourd'hui, même, ça s'est resté. Là, quand on va acheter des produits, elle va toujours choisir le moins cher. Je suis incapable de l'amener dans un restaurant un peu cher parce que ça la choque. Donc, c'est la pauvreté de ma mère dont j'ai le plus entendu parler. Alors que mon père, bien qu'ils étaient très pauvres quand ils sont arrivés, parce qu'en immigrant, ils ont tout perdu, mais ils se sont retournés. Et donc, dans ma famille, j'ai une astrophysicienne à la NASA, ma cousine. J'ai des diplômés de doctorat en pharmacie, en physique. Alors que chez ma famille québécoise, ben c'est des gens très intelligents et qui ont fait des bonnes vies, mais qui n'ont pas de diplômes doctoraux. Là.
En tout cas, ça raconte aussi beaucoup de l'histoire de l'immigration au Canada. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour partager vos histoires de métissage. 33 7 64 45 51 41. On accueille Aïda, qui nous appelle aussi de Dakar. Bonjour Aïda.
Oui, bonjour Emmanuel.
Aïda, vous êtes métisse, vous aussi. Hein?
Absolument, je suis métisse, exactement. Je suis de maman française et de papa sénégalais.
Ouais. Et, voilà. Et vos parents se sont rencontrés où ? En France ?
En France. Mes parents se sont rencontrés en France. Ma mère, donc, vivant en France. Et mon papa était venu, on va dire, pour son cursus, on va dire, scolaire. Et ils se sont rencontrés en France. Ensuite, sont revenus au Sénégal. Ma mère, se sont mariés, sont revenus au Sénégal. Et ont fait toute leur vie au Sénégal. Et ont eu 4 enfants qui sont nés au Sénégal.
Et aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Vous êtes issu de ce qu'on appelle un couple mixte. Est-ce que cette histoire du couple mixte, qui est votre histoire familiale, c'est une histoire qui finalement était assez simple ou faite de complications, de soupçons, de rejets ?
Pas du tout. Et justement, une histoire, j'ai envie de dire, idéale en fait, de métissage. Une histoire très très simple, faite de beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de, je pense, de compromis. Et des deux côtés, que ce soit du côté, donc on va dire européen, que du côté ici, entre guillemets, africain. Et c'est, je pense...
Donc vous êtes le fruit d'une acceptation de deux familles finalement ?
Ah, mais complètement. Je suis le fruit d'une acceptation de deux familles, je suis le fruit d'une tolérance extrême, je suis le fruit d'une compréhension. Enfin, voilà. Et finalement, c'est...
Oui, restez en ligne avec nous, Aïda, mais je vous pose cette question parce que pour vous, Maïka, vous dites, Maïka Sondarji, que la famille de votre père, donc malgache d'origine indienne, n'a pas si bien accepté que cela, en tout cas les premières années, votre mère québécoise, alors qu'ils étaient immigrés et qu'ils vivaient au Canada.
Mais exact, parce que pour la famille de mon père qui est indienne, donc ils étaient une minorité aussi à Madagascar, donc on voulait que les Indiens se marient entre eux parce que sinon on devient de moins en moins important en termes numériques et donc au Canada comme immigrant encore là, ils voulaient vraiment rester entre eux. Donc ma mère a dû travailler fort pour être accueillie. C'est peut-être après 35 ans ou 30 ans mariage
seulement.
Où les parents de mon père finalement un jour ont dit « Ah, nous avons deux filles ». Alors qu'ils ont seulement une fille, mais ils comptaient ma mère comme une de leurs filles. Puis je voyais vraiment dans ses yeux des années d'acceptation. Donc, les histoires de métissage, c'est toujours varié. Il y a beaucoup de beauté, effectivement, quand même, dans l'acceptation, par exemple, de ma famille canadienne à mon père. Mm. C'était la première personne qui était non-blanche qui arrivait dans la famille, mais ma grand-mère était tout de suite, elle l'a tout de suite adorée. Donc, elle-même, elle n'avait pas beaucoup d'éducation, aurait voulu avoir un bébé noir.
À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés, en plus, à Sherbrooke.
Ben non, je vous dirais qu'à Sherbrooke, il y avait la famille, les frères indiens, mon père et ses frères sont arrivés, mais il y avait peut-être une famille d'Haïtiens, c'était tout. Donc, c'était une étrangeté. On les arrêtait dans la rue pour leur demander d'où ils venaient.
Aïda, alors vous, aujourd'hui, vous avez un message à faire passer sur le métissage ?
Oui, je pense que oui, bien sûr, évidemment. Moi, je pense que le métissage, en fait, en tout cas pour des enfants métis, c'est pour leur équilibre et pour qu'ils puissent se construire le plus sereinement possible, je dirais, dans ce monde. C'est vraiment d'accepter, en fait, la culture de l'autre. Mm-hmm. C'est de l'accepter, de l'épouser et puis...
Et de bien la connaître
et en fait de laisser en fait chacun transmettre sa culture en fait à son enfant et en fait chacun peut rester authentique. Moi j'ai la chance en fait c'est que j'ai envie de dire que ma mère est restée très authentique en fait dans ses traditions, dans sa culture, dans ce qu'elle aime, et mon père également est resté très très authentique, et les deux en fait nous l'ont transmis avec une forme de bienveillance, de tolérance, ce qui fait qu'en fait on se construit dans deux environnements, deux cultures, deux façons de voir les choses, attention parfois, et deux visions critiques en fait des événements, mais qui rendent les choses de manière très, pour nous en tout cas, très, très apaisante et qui fait qu'en fait, on grandit avec une ouverture et une tolérance que je trouve, en tout cas en ce qui concerne ma famille à moi, extraordinaire sur le monde, sur la vie, sur les choix des gens. Et en fait, on a un côté, quelque part, moi je le vois clairement, je veux dire, il y a peu de choses qui peuvent me surprendre ou me choquer, quelles que soient les cultures en fait. Parce que je les ai expérimentés.
Merci à vous, en tout cas, Aïda, pour ce beau message. Ceci dit, c'est pas donné à tout le monde, d'abord d'avoir le désir de bien rester ancré dans sa culture, tout en s'adaptant à la société dans laquelle on est parti s'installer. Je voudrais aussi vous lire un message nettement moins positif, celui de Jean-Robert. Il a 28 ans, il est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Il dit, moi, dans ma culture, je suis de la région du Kasaï, les métissages sont toujours mal perçus par la population. Les femmes métisses sont des sorcières ou des prostituées. Si c'est un homme, on va le prendre pour un abîmeur d'enfants ou de femmes, sous-entendu un violeur. On ne lui accorde pas sa confiance. Les enfants grandissent avec cette connotation. Moi, en grandissant, il n'est pas métisse, bien, j'ai compris que les métisses sont comme nous et qu'il faut balayer les préjugés. Maïka Sondarji, vous, quand vous êtes allée à Madagascar et en Inde, l'Inde, retrouver vos origines, contrairement à votre père qui n'avait pas tellement envie d'y retourner.
Absolument pas. Non, mon père, c'est ce qu'on dirait au Canada un bon immigrant, au sens où il se dit plus québécois que moi parce qu'il a vécu plus d'années au Québec que moi. Et lui, bon, il est retourné après 30 ans. Là, on y retourne après un autre 17 ans. Donc, c'était pas, non, c'est pas un désir d'y retourner fréquemment.
Mais comment vous vous sentiez perçu à Madagascar, en Inde? En Inde, où, là, pour le coup, c'est vraiment la terre de vos ancêtres, de vos grands-parents et arrière-grands-parents.
Tout à fait, mais en même temps, ma culture est indienne. Mes tantes sont venues à mon mariage en sari. Ma grand-mère a fait, ma dadima a fait une cérémonie indienne à mon mariage. Donc, à Madagascar, les gens autour de moi ne me ressemblent pas, ne ressemblent pas à ma famille. Mais en Inde, donc, j'avais un peu plus de la culture. Donc, d'une certaine manière, je me sentais aussi un peu indienne. Je me sens un peu malgache. Et c'est très beau, les deux messages que vous avez. Parce que d'ailleurs, Aïda, moi, ma fille s'appelle Aïna. Et j'ai les mêmes questionnements par rapport au métissage. Et il y a plein de beauté dans le métissage. Mais en écrivant un livre sur le sujet, j'ai dû réconcilier les réalités positives et négatives parce que l'histoire du métissage est faite de choses assez négatives. Il y a eu des viols des femmes colonisées, et c'est les premières personnes métisses, des viols des femmes esclavagisées aux États-Unis. Mais en même temps, moi aussi, j'ai vécu, je pense qu'on doit toujours transmettre les deux cultures à nos enfants et ça fait un monde plus complexe, une courte pointe beaucoup plus belle si on accepte cette créolisation.
Et cette complexité. Exactement. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, mais le monde a besoin d'ultra simplification. Il suffit de le voir aujourd'hui quand on calcule les droits de douane. Nous donnons la parole à Exaucé, 24 ans. Bonjour Exaucé, soyez le bienvenu.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu Exaucé. Ouais, moi c'est Emmanuel. Vous êtes étudiant et vous êtes à Brazzaville, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Ouais, et vous êtes métisse?
Bon, je peux dire, j'ai des origines.
D'accord. Alors, racontez-nous en quelques mots l'histoire de votre famille.
Bon, je peux dire, dans ma famille, nous avons reçu du métissage. Donc, précisément, je pourrais dire que nous avons un peu, notamment, le sang portugais et nous avons un peu des origines d'Angola.
Donc, ça vient de la colonisation portugaise en Angola, j'imagine, ces origines portugaises?
Bon, je dirais que en fait, si je peux bien l'expliquer, d'après ce qu'on m'a expliqué chez mes parents, bon, ils m'ont dit que ils se sont immigrés ici à partir du 19e siècle.
Ici, c'est-à-dire où?
Au Congo.
Ah oui, d'accord. Mais c'est intéressant ce que vous nous racontez, Exaucé, et merci de nous avoir appelé, parce que dans l'histoire familiale, on ne transmet pas toujours tout. Il y a des zones d'ombre aussi, hein, notamment dans l'histoire de votre famille, partie du Gujarat, sur un voilier. Il me semble qu'il y a une grand-tante qui est restée en Afrique du Sud.
On pense qu'elle a fait sa vie en Afrique du Sud, mais on ne sait pas trop qu'elle soit morte dans le voyage.
C'est ça, elle est peut-être morte dans le voyage, mais on aurait changé la réalité pour qu'elle soit moins dure à accepter.
Je pense. Mais dans ces voyages, dans ces époques, au début du 20e siècle, il y a toutes sortes de choses qui se passaient dans ces bateaux. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Puis pour les personnes métisses ou qui ont des différentes origines, souvent ce puzzle sera peut-être jamais complet. Mais ça ne veut pas dire qu'on est psychologiquement perdu. Ça peut aussi, on peut combler les pièces par nous-mêmes puis se faire notre.
Alors justement, combler les pièces, parce que Ozossé, il n'a pas l'air tout à fait certain. Il dit, on m'a raconté. Il y a cette difficulté d'accéder peut-être moins facilement à l'histoire familiale que d'autres.
Exact. Parce que moi, c'est pour ça que je suis allée à Madagascar, que je suis allée en Inde, que j'ai fait le chemin de Compostelle aussi pour retrouver mes racines un peu chrétiennes, catholiques. Donc, essayer de voir. Je lisais le Coran et la Bible en même temps. À 14 ans, je me cherchais. Je ne savais pas trop d'où je venais. Donc, on prend là où on peut un peu des pièces de notre histoire. Puis Toni Morrison, qui est une autrice états-unienne, dit « Si un livre n'a jamais été écrit et que vous auriez aimé le lire, écrivez-le. » Puis moi, j'aurais aimé lire un livre comme ça et je vais écrire un livre pour enfants. Bientôt, on m'a demandé de faire ça. Puis je pense pour les enfants métis, ça va être un outil pour mieux se comprendre.
Ah ben voilà, il est bien là, ce livre. Tu viens d'où, hein? Réflexion sur le métissage et les frontières aux éditions Luxe. Merci. Maïka Sondarji, vous restez avec nous.
Parfait, je reste.
Je rappelle aussi que vous êtes professeur en développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa au Canada. Et d'ailleurs, vous êtes souvent sur Radio-Canada pour livrer des analyses. D'où votre plaisir, hein, d'être devant un micro. Mais là, cette fois-ci, c'est chez RFI. Vous restez avec nous encore un petit moment parce qu'on va vous faire découvrir le succès des repas. C'est notre série de portraits en podcast. Un nouvel épisode arrive juste après. L'artiste Théodora, alors elle est née en Suisse, grandit entre la RDC, la Grèce, l'île de la Réunion et la métropole française. Et la chanson, c'est « Il me rit tout sonné » en playlist RFI.
J'ai souvent trop donné, il me rit tout sonné. j'ai le plaid et le poinçonnier. Pourtant, je suis juste passionnée.
Maintenant, le succès des repas. Voici tout de suite un nouvel épisode de notre série en podcast. Des histoires de retour au pays pour entreprendre et créer des emplois sur le continent africain.
Le succès des repas.
On ne peut pas rester à distance et vouloir que les choses bougent sans que nous on fasse quelque chose pour qu'elles bougent.
C'est très important de créer des emplois localement.
Ici, c'est compliqué. J'ai fermé mes oreilles tout simplement et je me suis lancé.
Portrait de Ticia Mukuna maintenant. Elle a 32 ans, elle est née à Kinshasa. Elle a suivi l'essentiel de sa scolarité en France, entre la Normandie et Paris, où elle est diplômée d'une école de commerce. Et après un master en négociation des affaires en Chine, à Shanghai, eh bien, elle a travaillé également chez Microsoft, pour des agences de publicité, encore pour une succursale de magasins bio. Et il y a 6 ans, Ticia Mukuna décide de rentrer en RDC pour lancer sa marque de café, la Quinoise. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontrée chez elle dans son appartement à Kinshasa. Elle nous accueille son bébé dans les bras. Bonjour, bonjour Ticia.
Bonjour.
Ça va?
Ça va bien, merci. Et vous?
Bah bien, je viens prendre le café chez vous alors.
Ah ouais, bah écoutez, on a prévu les croissants, les pains au chocolat et le café congolais, la quinoise. Vous allez me dire ce que vous préférez entre l'arabica et le robusta.
Alors j'avoue que je connais pas bien la différence.
Arabica, c'est plus doux, ça accompagne bien les fins de repas, je trouve. Alors que le Robusta, comme le nom l'indique, c'est plus robuste. Donc pour le petit coup de fouet du matin, c'est parfait.
Eh ben, allez pour du Robusta.
Ça marche. Alors, tu préfères le café comme ça et on utilise une machine à café, somme toute classique, ou le café en infusion, qui se boit comme du thé?
Ah, ça existe en infusion.
Oui, regarde, tu peux le sentir déjà dès maintenant.
Ah ouais, on sent vraiment le café à travers le sachet.
C'est ça, et ça c'est des fibres naturelles de plantes, donc c'est biodégradable. Ça c'est notre produit phare pour la population de masse, on va dire, parce que le Congolais moyen n'a pas forcément les moyens d'acheter une machine à café. Or, notre client peut avoir de l'eau chaude. Donc il met de l'eau chaude, il met ce café et on est parti.
Et ben on va tester.
Super. Hop là.
La Quinoise, donc c'est votre marque de café. Là, d'ailleurs, sur la table, il y a donc ces sachets de café que vous êtes en train de faire infuser dans de l'eau. Mais il y a aussi d'autres sachets de café qui sont là en grains ou moulus.
Alors oui, c'est ça. On a différents types de café. Du Robusta, l'Arabica, du Liberica et du Petit Cuilou. C'est un café qui n'existe qu'au Congo. Il pousse nulle part ailleurs. Mon boulot aussi, c'est de mettre en avant comme ça le terroir congolais, c'est vraiment qu'on puisse connaître le Congo autrement que par des nouvelles négatives ou tristes, mais sur aussi des choses sur lesquelles on peut être fier, comme notre terre et ce qu'elle peut produire.
Donc vous avez une usine où vous produisez ce café ici à Kinshasa?
Oui, c'est ça. Alors on a une usine qui a une capacité de production de 30 000 paquets par jour.
Donc 30 000 paquets comme ça, de 250 grammes.
Et 200 grammes, des unidos, on fait vraiment tout localement. Et pour nous, ça, c'était important parce que la plupart du temps, le café, après être cultivé, après la récolte, il est envoyé dans d'autres pays, torréfié dans d'autres pays, et il nous revient. Donc, c'est-à-dire que finalement, on importe notre propre café. Donc, on est vraiment de la plantation à la tasse.
Bah, je vais goûter ce café, alors. Il est suffisamment infusé, là, vous pensez ?
Oui. Tu le bois bien noir, normalement ?
Oui.
Ok, bah, super. Il est assez fort pour toi ?
Ouais, il est bien. Comment ça vous est venu, cette idée-là, un peu folle peut-être au départ, de relancer la production de café à votre échelle ici à Kinshasa ?
Donc j'ai toujours été passionnée d'agriculture et quand j'étais adolescente, je plantais plein de trucs. Des oranges, des citrons, du bitécoutécou, plein de trucs. Donc moi j'ai fait mes études en France, mais je venais chaque année au Congo et c'est ce que je faisais. Les gens de mon âge préférer, je sais pas, sortir, boire des verres. Moi, je préférais aller planter des choses. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais planter du café. Et vraiment, c'était un petit challenge. Je voulais juste voir si ça poussait. J'ai fait mon premier germoir.
Germoir, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, germoir, c'est des plantules de café. Puis après, je l'ai mis en terre. Et au bout de 2 ans, déjà, ça poussait bien. Au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à avoir mes premières cerises de café. J'étais ado, j'avais rien à perdre, j'étais content, voilà. Et quand on parlait de café autour de moi et que je disais « Ah bah tiens, moi j'ai réussi à faire pousser du café à Kinshasa », personne ne me croyait. Parce qu'il était de croyance commune que le café ne poussait pas à Kinshasa et qu'il ne pouvait pas pousser à Kinshasa, qu'il fallait une certaine hauteur, ce qui est vrai. On a de la hauteur quand on est à Mongafula, comme le nom l'indique, c'est un mont. Donc c'était possible de faire pousser du café à Kinshasa. Alors on a notre plantation. Donc c'est la seule plantation qui se trouve à Kinshasa. Au-delà de cette plantation, on relance les plantations de café abandonnées partout en RDC. Il y a 40 ans, le Congo était l'un des premiers pays producteurs de café et exportateurs de café. L'un des premiers pays dans le monde. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le petit bout de femme que je suis essaie d'un peu de changer les choses. Donc toutes ces plantations de café qui ont été abandonnées depuis 40 ans, on les revitalise. Donc en plus de ma plantation, je travaille avec différents caféiculteurs, avec différents villages, au Congo central, ou encore Kwango, Kwilu, donc tout ça, et bien sûr Kasaï. Et avec les relances de plantations de café qu'on a fait, on a pu replanter plus de 35 000 arbres.
De café ?
De café.
Quand vous êtes revenu il y a 6 ans, à quelles difficultés vous avez dû vous heurter ?
Alors, c'est une difficulté, mais je pense qu'il existe dans tous les pays, c'est entreprendre et être une femme. Surtout quand c'est fait de façon industrielle, les patrons d'entreprise sont souvent des hommes. Et des hommes d'un certain âge. Quand on voit arriver une jeune femme, en plus à l'époque, quand j'avais commencé, moins de 30 ans, avec une fleur dans les cheveux, etc., avec une petite robe, on m'a déjà demandé de servir le café en attendant que le chef arrive, alors que j'étais déjà arrivée. Et j'ai servi le café d'ailleurs. Je l'ai servi, je leur ai demandé s'il était bon et qu'il venait de ma plantation. Et puis après, bien entendu, il y a des difficultés d'ordre structurel, les infrastructures routières, les routes de desserte agricoles, l'accès à l'électricité. Quand on a une usine et qu'on tourne sur un groupe électrogène, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut avoir le cœur bien accroché. Quand on est venu au Congo avec mon mari, c'était, je pense qu'on s'était dit qu'on va voir pendant 6 mois comment les choses se font. Et puis bon, voilà, ça fait 6 ans. Je ne me voyais pas ne pas aider mon pays d'origine alors que mon pays a besoin d'aide. C'est comme si vous laissiez vos parents galérer, entre guillemets, et que vous roulez en Porsche. Ça n'a pas trop de sens. Vous voulez mettre vos parents à l'aise parce qu'ils vous ont aidé à grandir, etc., qu'ils vous ont accompagné dans votre vie. Il y a un peu de ça. Il y a des pays qui se développent avec le café. Je pense au Brésil, je pense au Vietnam, à l'Éthiopie, au Kenya. Et nous, avec nos moyens, avec notre hauteur, on essaie de changer un peu les choses.
Ticia Mukuna, avec son café La Quinoise, a remporté plusieurs prix, dont le trophée des agricultures du monde au Salon international de l'agriculture à Paris en 2023. Et aujourd'hui, le café de Ticia Mukuna est vendu dans les supermarchés de Kinshasa, dans des hôtels haut de gamme de la capitale. Et l'entrepreneuse emploie une quarantaine de vendeurs ambulants pour distribuer son café aussi dans la ville. Et elle rêve d'exporter son café, La Quinoise, aux États-Unis, peut-être au Canada, en Asie, en Europe, mais évidemment avec la guerre à l'est du pays. Elle fait face à des difficultés d'approvisionnement en café arabica. Maïka Sondargi, vous qui êtes canadienne, avec des origines complexes que vous nous avez racontées, que vous évoque le parcours de cette... Alors nous, on dit repatrier. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez d'ailleurs.
Non, je me demandais d'ailleurs, mais c'est très bien choisi. Puis pour moi, ça, c'est les effets positifs de la mondialisation. On parlait tout à l'heure, avant d'entrer en onde, des effets négatifs. Mm-hmm. Il y a de la mondialisation économiquement, tout ça. Mais pour moi, le mélange des cultures, puis le fait de vouloir retourner dans son pays, de pouvoir le faire, puis j'ai l'impression de le faire sans a priori, sans préjugé, juste pour faire participer à son pays. Donc c'est d'une beauté incroyable. Puis je pense que le métissage, encore là, amène ce type de complexité dans le monde. Elle est un peu entre plusieurs mondes, elle existe entre plusieurs mondes, puis elle fait des choses positives avec tout ça.
Mais votre père, lui, n'a jamais imaginé se réinstaller à Madagascar, par exemple.
Non, Madagascar, par contre, c'est un des 10 pays les plus pauvres au monde. Les opportunités ne sont pas nécessairement là. Et pour beaucoup, quand on a quitté le pays depuis très longtemps, c'est difficile, même quand il est à Madagascar, les gens le prennent pour un blanc, entre guillemets, au sens où il est clairement occidental aujourd'hui. Il serait très peu adapté à la vie malgache, même quand je lui ai demandé est-ce que le jour où...
Et pourtant, il parle malgache. Hein,
il parle malgache, il parle gujarati, il pourrait tout à fait... Il fait un emploi, il est dans la finance, il pourrait tout à fait retourner, mais non. Je pense qu'il le dit lui-même, il se sent plus canadien que moi. Son pays, c'est le Québec, disons, et il va passer toute sa vie là-bas.
Plus canadien que vous, paradoxalement, Maïka, vous qui êtes née au Canada. Mm-hmm. Merci en tout cas, Maïka Sondargi. Vous publiez « Tu viens d'où ?» Réflexion sur le métissage et les frontières. On vous souhaite un très bon retour au Québec. Et quant à nous, retour dans l'histoire des jeux vidéo dans quelques secondes.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning. Bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Mathieu Asubiolo.
Buenos dias.
À quoi va les voisins et les voisines?
Et maintenant, une plongée dans l'histoire du jeu vidéo avec l'exposition Game Story qui se tient jusqu'au 16 avril à Versailles. C'est à l'ouest de Paris, une expo pour découvrir la plus grande collection de jeux vidéo et de consoles d'Europe. Et y jouer, évidemment, de quoi ravir les enfants, mais aussi les plus nostalgiques. Reportage transgénérationnel de Tom Malky.
Double dash.
Double dash. On est en train de jouer à un vieux jeu, Mario Kart, que j'avais déjà eu.
Qui est en train de gagner ?
C'est moi.
Ouais.
T'es en train de gagner.
Ouais, tu viens de te prendre une carapace.
Et là, je viens de me prendre une carapace et une banane. Donc du coup, je suis deuxième.
C'est devenu cool de jouer aux jeux vidéo.
On sent que c'est devenu accessible. Les jeux vidéo, à l'époque, c'était très coûteux. Et moi, je me rappelle que mes parents n'avaient pas les moyens de me financer des jeux ou une console. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir découvrir des consoles comme la Mega Drive, des consoles que je n'ai pas eues, du coup, pour moi, c'est une chance de pouvoir les tester, de pouvoir avoir les sensations, les vibrations sur les mains.
Bonjour, je suis Monsieur Nicolas Bernardino, et donc je suis le médiateur pour l'exposition Game Story. C'est l'une des plus grandes expositions sur l'histoire du jeu vidéo d'Europe. Là, on est sur un oscilloscope. Et imaginez qu'il y a des Américains dans un grand bureau. Il y a des fois, ils s'ennuient un peu et ils vont faire le premier jeu vidéo. Là, voici Pong. C'est tout bête. Tout le monde connaît Pong. C'est une grande ligne verte pour faire le sol, verticale pour représenter le filet de tennis. Deux rectangles, un petit carré qui se déplace et c'est le premier qui arrive à 15 points qui gagne. Regardez, là il y a deux personnes qui n'ont jamais joué à ce jeu. Ils ont juste appuyé sur Start et en moins de 3 secondes, ils savent jouer.
Quel est le public pour ces jeux-là?
C'est comme les petits trains, hein. C'est pas les enfants qui jouent aux petits trains, c'est les grandes personnes qui jouent aux petits trains parce que ça vaut tellement cher que forcément c'est pas possible. Sur l'arcade, un truc qui est sûr, c'était vraiment réservé aux adultes, alors que les consoles de salon, c'était vraiment, attention, on est toujours avant 80, c'était vraiment réservé à un public aisé. Et donc, forcément, il y avait des enfants qui jouaient, mais à mon avis, c'était principalement des adultes.
À mon âge, j'ai connu les premières consoles au début des années 80, donc là, j'assouvis un tas de trucs. Pac-Man, beaucoup, et puis quelques jeux de shoot, les premiers jeux de vaisseau où on tire, des choses comme ça. Alors, manifestement, je suis dépassé. Il y a trop de trucs que je connais pas, en fait.
Je collectionne pas mal les consoles et les jeux depuis que je suis tout petit, donc je connais assez bien l'histoire des jeux vidéo. Ouais. C'est très complet, il y a des exemplaires d'à peu près toutes les consoles ou tous les ordinateurs que je connais. Pour certaines très vieilles, il y a forcément une petite déception parce que c'était un peu limité, mais pour d'autres, c'est vraiment super sympa de pouvoir enfin y jouer et de pouvoir découvrir ce que j'avais manqué à l'époque. Ouais.
Et ben moi, justement, j'ai appris beaucoup de choses avec l'expo, notamment le nombre de consoles, pourquoi certaines ont chuté.
Ils ont fait trop de jeux, trop répétitifs. Et du jour au lendemain, il y a vraiment eu le crack du jeu vidéo. C'est le seul mass-média au monde où il y a eu un crack. Paf, du jour au lendemain, ça n'intéresse plus personne. Pendant 3 ans, il ne faut plus parler de jeux vidéo à tout le monde. Tout le monde va dire « c'est nul ». La répétitivité des jeux, le prix, et surtout, c'était toujours la même chose. C'était toujours mauvais, et donc forcément, les gens en ont eu marre. 80, début 85, on va faire un jeu vidéo, mais une console cheap. Il faut qu'elle coûte le moins cher possible. Tout ce qu'ils peuvent gratter au niveau du prix, ils le font. Et comme elle n'était pas chère, mais elle n'était pas si mauvaise que ça, parce que quand même c'était sympa, et surtout il y a eu des jeux extraordinaires. La NES, on a tous connu ça, c'est le fameux rectangle gris clair et gris foncé, avec un couvercle où on mettait, on enfonçait la cartouche et on devait la baisser.
Là pour le coup on est sur des consoles qu'on peut encore trouver, hein, la NES, ça peut encore se vendre.
Ah, difficilement oui. Et surtout si vous trouvez une NES dans votre grenier ou autre chose, attention, il se peut que votre télé récente ne comprennent pas le signal, donc laisse un écran noir.
J'ai gardé ma Game Boy et, pour lui montrer justement l'évolution un petit peu pour qu'il apprécie encore plus ce qui se passe aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ?
En fait, on s'aperçoit que la nouvelle technologie, c'est bien, mais on s'amuse très bien aussi avec les anciens jeux. Voilà, donc c'est bien.
Et pour l'instant, qui est-ce qui gagne ?
Moi.
Là, je viens de me mettre à jouer avec lui, c'est pour ça, mais j'ai pas dit mon dernier mot.
Bon, alors forcément, les parents emmènent leurs enfants, mais on les voit jouer aussi.
Ah ben, bien sûr, le but, c'est le partage. Il n'y a rien de mieux que voir des parents ramener leur enfant pour dire « Ah, oh, regarde, c'est le jeu que je joue, viens, je vais t'expliquer comment on joue. »
Est-ce que c'est pas la preuve que c'est intergénérationnel ?
C'est vraiment intergénérationnel. C'est vraiment le jeu vidéo, ça touche tout le monde, puisqu'il y a le mot « jeu », et on aime tous jouer. Qu'on ait 7 ans ou 70 ans, on aime tous jouer, et heureusement. En anecdote véridique, je joue avec la Wii avec mon ami d'enfance, on s'amuse, on s'éclate, et d'un coup, ma grand-mère arrive et a fait « Ah bah tiens, vous jouez à la Wii. » « Pardon, mamie, tu connais ça ?»« Ah oui, oui, je connais, c'est rigolo. » »« Mais comment ça, tu connais ça ?»« Bah oui, j'y joue avec Huguette. »
Est-ce que vous saviez à quel jeu jouait votre mamie ?
À Wii Sport. Donc c'est bouger la manette pour faire fonctionner son personnage.
Il y a une époque du jeu vidéo que vous regrettez peut-être ?
L'arcade. Parce que c'était des jeux très faciles à comprendre. Ah oui, c'est le but. On met une pièce, au bout de 30 secondes, il faut que j'ai le sourire. Sinon, le mec, il va lâcher ses pièces. Et après, malheureusement, cette forme de jeu est en train de disparaître. Il y en a de moins en moins. Là, pour moi, j'ai bien dit pour moi, attention, le jeu vidéo, c'est un adolescent. Il est en train de se découvrir, il est en train de se gratter le nez, il est en train de se dire « Attends, on peut faire ça et ça. » Vraiment, c'est vraiment un jeune adulte. Il est encore foufou dans le bon sens, mais il y a encore plein de choses à faire. On n'est qu'au début. Et bien malin qui connaîtra le futur.
L'exposition Game Story qui se tient jusqu'au 16 avril à Versailles. Reportage signé Tom Malky. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine Cachin, Alice Ménard, Thibaut Matta, Pauline Berthélémy. Pour réécouter l'émission, direction RFI Pure Radio, l'appli. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram et WhatsApp Channel avec notre story d'ailleurs qui suscite pas mal de réactions sur les domestiques au Brésil. L'histoire d'une servitude liée au passé esclavagiste du Brésil. Et vous retrouverez également le lien pour réécouter ou écouter le grand reportage. Demain, 8 milliards de voisins, les métiers de la cuisine peuvent-ils servir de tremplin pour la jeunesse ? Les émissions concours de cuisine se multiplient partout sur les chaînes de télévision et font naître évidemment des passions. Mais sur le continent africain, les vraies formations manquent, les écoles de cuisine notamment. Alors comment passer de la grande marmite des réseaux sociaux à de vrais parcours professionnels ? Vos témoignages nous intéressent au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI, bien sûr. Restez à l'écoute.